Et c'est le moment d'accueillir Danny Dubé. Bonsoir, Danny.
Salut, Mario.
T'étais pas dans la manif, toi, là? Non?
Non,
non. USA! Hey, boy, n'ajustez pas votre appareil. Vous êtes bien aux amateurs de sport.
Ah, j'avais bien rigolé une année où le Canadien était en série contre les Flyers de Philadelphie 2010.
En partant, ça devait remonter à une coupe d'année.
Oui, 2010. Ouais. Ouais, c'est 2010, c'est ça. 2010-2011, la saison où le Canadien avait fait le carré d'as. Et puis, écoute, on sortait de l'amphithéâtre après le match. Puis nous, les autobus de l'équipe adverse, en fait, il y a deux autobus, une pour les médias puis une pour les joueurs. Et les gens nous criaient... nous injuriaient, là, tu sais, parce que nous, on est les Canadiens, tu sais, et donc, les Canadiens, et là, les gens nous disaient toutes sortes. Ah oui. Oh, oui, oui. Puis ça a été à tous les matchs, même une fois, j'ai dit à un des partisans, j'ai dit, monsieur, si vous voulez que je retourne chez nous, je dois revenir avec la moitié de votre équipe, ils sont tous Canadiens.
Qu'est-ce qu'il t'avait répondu?
Il n'a pas répondu, mais en fait, un visage un peu.
Ouais.
Il était comme un point d'interrogation en plein visage. Lui, là, il avait comme pas réalisé qu'il y avait des joueurs qui étaient de provenance canadienne au sein des Flyers de Philadelphie.
Il venait d'allumer, lui, là. La lumière s'est rendue là.
Oui, la lumière fut.
et s'il y a un endroit où on peut parler que la lumière fut, c'est à Philadelphie, si on remonte dans le temps un petit peu. Mais, oui. Hey, sais-tu quoi, Danny? C'est-tu réconfortant pour les amateurs du Canadien de constater que les clubs de petits vieux veillent tard en série? Et les quatre clubs toujours en vie font partie des équipes qui ont la moyenne d'âge la plus élevée. 28,9 pour les Islanders, c'est la moyenne d'âge la plus élevée de la Ligue. 28,2 pour Tampa Bay à quelques décimales près. 27,9 pour Vegas et 27,8 pour les Stars de Dallas. Les gars d'expérience, c'est là qu'est l'avenir, Danny, avec des bons jeunes, évidemment.
Oui, c'est ça. Non, mais en fait, j'ai de la difficulté à tirer une conclusion des séries de cette année pour toutes les raisons qu'on connaît. Là. Je me suis déjà exprimé là-dessus. Je te répète rapidement qu'après une pause aussi importante, aussi longue, dans un contexte tellement différent et particulier, j'ai beaucoup de difficulté à tirer des conclusions autres que de voir que des joueurs ont encore le goût de jouer, sont dynamiques et compétitionnent, etc., etc. Mais est-ce que qu'est-ce qui est le mieux? T'sais, moi, je pense qu'un joueur, quand il a ses 82 matchs dans le corps, il est ça. C'est la lourdeur de la saison. Elle fait son œuvre. Elle fait son œuvre sur les peut-être certains joueurs de plus petite stature qui sont peut-être avantagés dans les séries comme celle de cette année. Je pense à certains joueurs chez le Lightning de Tampa Bay, entre autres. Des gars très combatifs comme Yanni Gourde qui est reposé, c'est sûr que ça a un impact. Palat qui a eu le temps de guérir des blessures, c'est sûr que ça a un impact sur son jeu. Alors, d'un côté, lorsque tu évalues la prestation de ces gars-là, les performances de ces gars-là, j'ai l'impression que tu dois faire une comparaison avec quelques autres apparitions en série ou quelques autres.
Mais c'est difficile de tirer des conclusions, Danny, t'as raison, parce que tu sais, l'écart, là, il est pas bien, bien grand entre l'équipe la plus jeune. Prends l'équipe la plus jeune, Chicago 25,6.
Mais
c'est quand même considérable si je vais à l'autre bout du spectre. Oui. Mais ce que je voulais juste ajouter, c'est que les quatre équipes qui sont là, je pense qu'on peut dire, c'est pas farfelu de dire que Vegas puis Tampa Bay, il y a de bonnes chances qu'ils soient dans le carré d'as, même si on est à l'issue d'un calendrier de 82 matchs.
Oui. Ah, oui, mais peut-être, t'as peut-être pas les mêmes acteurs. Prépondérant. Tu n'as peut-être pas les mêmes joueurs qui se mettent en valeur de la façon dont ils se mettent en valeur.
Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est des équipes bâties pour plusieurs environnements, donc papier sablé, délicatesse, talent peu, etc. Fait que il faut retenir ça. Je sais pas si c'est ça que Marc Bergevin tente de faire avec les derniers gestes posés, comme les droits sur Edmondson, on verra. Mais qu'est-ce que ça t'envoie comme signal, toi, Danny?
Ben, Edmondson, c'est un joueur... Je pense que c'est une bonne opportunité pour le Canadien parce que il n'y a pas beaucoup de joueurs qui atteignent l'autonomie cette année qui vont avoir le gros bout du bâton. Je pense qu'on est dans une situation où ceux qui vont réussir à avoir une offre de contrat, il y en a quelques-uns qui vont peut-être avoir le luxe ou le privilège de négocier puis d'aller faire un peu de magasinage parce que c'est des joueurs vedettes ou des joueurs qui ont plus à offrir. Mais lorsqu'on parle d'un joueur comme Edmondson, moi je pense que lui, là, s'il y a une opportunité de signer un contrat, il va le faire. Parce que ça reste un joueur de soutien dans la Ligue nationale à la position de défenseur. Là. C'est quand même pas un
Bobby Orr.
C'est
mon nom-clé pour ces phrases-là.
C'est ça. Tu sais, le joueur a joué pas tout à fait 350 matchs, et 72 points, là, 20 buts. Alors, c'est pas un...
C'est pas un nouveau corps arrière, là.
Non, mais en même temps, il va permettre aux Canadiens d'acheter du temps. C'est un gaucher. Donc, ce que ça fait, c'est que peut-être qu'il peut prendre des minutes en désavantage, qu'il peut prendre certaines situations, il ne jouera pas en avantage numérique, mais en même temps, ça veut dire pour Romanov, ça veut dire un petit peu d'air pour à gauche. Tu sais, c'est, je pense aussi à Kulak, qui peut se retrouver dans une situation où il y a un petit peu plus de compétition. Et moi, je pense que chez le Canadien, c'était devenu impératif du côté gauche qu'on ait un peu plus d'expérience.
Expérience ou gabarit?
Ben, gabarit, certainement, là, tu fais bien de le mentionner, puisque lui, c'est un gros garçon. Là. C'est 6 pieds 4 pouces, c'est 220 livres. Là. C'est un gros joueur. Alors moi, c'est sûr que un joueur avec un gabarit de cette envergure-là, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que le Canadien en avait besoin d'être plus costaud, plus résistant.
Dirais-tu que c'est sur le moule, exactement sur le moule, même si c'est pas des joueurs identiques, là, de l'acquisition de Chiarot? Chiarot, oui. Un gros gars, finalement, il s'installe dans ta première paire. C'était pas ça le plan, mais c'est un bonus. Et là, ben en série, il confirme que hey, c'est du solide. Puis Edmondson, c'était un peu dans la même lignée de gestes, non?
Oui.
Pour ta deuxième paire?
Oui. On est dans le même style de joueur. Je pense que, tu sais, enfin, on verra
là, c'est ça.
C'est ça, parce que ce qu'on a demandé à Chiarot, c'est quand même de jouer un rôle prioritairement défensif. Donc, on se fait pas de peur non plus, là. Je veux dire, lui, là, il arrive avec le Canadien et tout à coup, il se retrouve à jouer avec le meilleur défenseur de l'équipe. Mais, à cause de la façon dont l'équipe est bâtie, on leur donne des rôles plutôt défensifs. Donc, on les fait jouer contre les meilleurs trios des équipes adverses. Comme on l'a fait un peu avec Dano, là, c'est un peu...
Oui.
Et donc, ça lui a permis d'aller chercher beaucoup plus de minutes que ce qu'il avait l'occasion d'avoir par le passé ou l'habitude d'avoir par le passé. Mais écoute, les chiffres, c'est à peu près similaire. Dans le type de joueur, moi, je pense que c'est des gars qui ont certaines similitudes au niveau du gabarit, coup de patin, fait que c'est ça.
Bonne première passe, un gars physique. Un bon lancer, même si c'est pas la facette de son jeu qui a été super exploitée, parce que bon, puis je pense que c'est pas ça qu'on va lui demander non plus, mais on a vu Chiarot, c'est un gars qui s'élance de plus en plus souvent en zone adverse, même si sa mission première demeure de défendre, je parle quand le moment est venu, puis quand la situation s'y prête. Là.
C'est ça, c'est des gros joueurs qui ont quand même un bon coup de patin. Les deux, c'est assez fluide. Ils sont capables de suivre le rythme de la Ligue nationale, ce qui est quand même pas rien, là, quand t'es avec des gabarits comme ceux-là. Puis moi, je pense que la lumière de ce qui s'est passé dans les dernières séries, tu veux t'assurer, là, puis tu regardes aussi les autres équipes dans l'Est contre qui tu vas jouer. Parce que là, on le sait pas, là. Mais là, on dit, bon, est-ce que les équipes canadiennes vont jouer une contre l'autre? On n'a aucune idée dans quelle direction ça va aller. Mais on sait une chose, c'est que tes joueurs clés vont être sollicités, puis des trois matchs en quatre soirs, ils vont en avoir en masse. Fait que la profondeur à la défense, ça va devenir essentiel pour à peu près toutes les équipes. On a parlé de l'acquisition de Jake Allen, qui était vraiment, c'était impératif, là, c'était même vital pour le Canadien, puis si on voulait avoir le meilleur de Carey Price, ben c'est un peu la même chose avec Edmondson. Moi, je pense que si on est capable de s'entendre avec lui, puis d'avoir un contrat qui est à la hauteur de ses attentes, je pense pas que ce soit un problème à régler. Là. Il fait 3 millions par année, je pense.
Oui, 3,1 cette année. Fait que,
bon, c'est quand même. Là, c'est.
Maxime Lapierre, à qui j'ai parlé un petit peu plus tôt, parce qu'il est en Allemagne, on va l'entendre après toi, lui dit je veux pas aller ben en haute carte, mais tu sais, quand tu as un besoin, on verra. Ils vont s'entendre, peut-être quitte à lui donner une année de plus. Tant que ce ne soit pas un contrat à la Osner, c'était pas le contrat, c'était la performance qui posait problème. Mais sais-tu quoi, Danny? Au-delà de ça, on verra ce qui arrive à Edmondson. Je pense que, comme toi, qu'il y a des bonnes chances qu'ils s'entendent. C'est ce que ça ouvre comme possibilité. possibilité qui est très intriguant. Qui devient dispensable plutôt qu'indispensable? Je parle de la brigade défensive, là, Léno. T'sais, est-ce que ça donne l'occasion à Romanov d'aller jouer à Laval ou Romanov est toujours dans le portrait pour commencer à Montréal? Puis moi, parce que là, ton power play, tu viens pas d'améliorer ton jeu de puissance, là. Donc, ça va passer par l'acquisition d'un attaquant, j'imagine, l'amélioration de ton jeu de puissance. Est-ce que tu permets à Romanov de développer ses instincts offensifs davantage à Laval pendant une demi-saison? Kulak, qu'est-ce qu'on fait? Comment tu vois ça?
Ben, moi, j'ai pas, mes attentes sont pas au plafond avec la contribution offensive de Romanov, là. Moi, je pense que Romanov...
Non, mais c'est pas là une opportunité qui développe?
Ben, en fait, à Laval, oui, mais à Montréal, non. Là, je pense pas qu'il est prêt à contribuer offensivement à Montréal tout de suite. Je pense que ce que l'équipe se dit probablement, c'est que si on le part tranquillement, si on le part lentement, si on n'est pas prêt, on peut l'envoyer à Laval. On a assez de réserves pour commencer l'année de cette façon-là. Le cas échéant, ben, il commence chez nous, il joue sur une troisième paire. Pas trop, on veut le faire jouer à des avantages numériques. On va regarder comment il se débrouille. On va graduellement lui donner un petit peu plus de responsabilité. Mais l'avantage numérique,
ça va passer par un attaquant.
Moi, je pense que oui.
Si tu veux l'améliorer, pas de problème. Ça fait que Kulak ira jouer à droite ou Kulak ou Mété, il y en a un des deux qui devient matière à transaction.
Oui, exactement.
Lequel?
Ben, moi, je pense que c'est celui qui est le plus susceptible de partir, c'est Mété, en ce qui me concerne. Là. C'est lui pour qui la contribution est la moins évidente. Même Kulak, je pense que sa contribution, elle est évidente. On voit qu'est-ce qu'il est capable de faire. On voit Xavier Ouellet, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Dans le cas de Victor Mété, moi je sais, il y en a qui pensent que je me chante dessus, là. Au contraire, là, je suis un bon garçon, là, je suis pas. Mais si je regarde, moi, ce que j'ai besoin d'un défenseur, à part le fait qu'il patine puis qu'il transporte la rondelle en zone neutre, tu sais, j'ai de la difficulté à lui trouver, comme l'expression consacrée l'a souvent dit, une chaise.
Tu sais, il y en a qui me disent, dont quelqu'un dont je vais taire le nom à l'instant, qu'il ne vaut rien. Tu veux, je te nomme Michel Tremblay, dit « Mété vaut rien ». Mais moi, je pense que... Non, mais Danny aussi, tu sais ça que tu dis qu'il n'y a pas une grosse valeur, mais Mété a une bonne... Tu sais, je veux dire, il y a eu une valeur, le Canadien, les trois dernières années. Fait qu'il y a toujours bien une équipe qui n'est pas dans une meilleure situation que le Canadien en ce moment, puis pour les trois prochaines années, qui va le prendre, Mété.
Ben écoute, si tu te départis de Mété, tu as fait 3 ans sur 4 que tu fais pas les séries, la fois que tu as fait les séries, c'est à cause de la COVID.
C'est sûr, ben, c'est pas de la faute à Mété.
Non, c'est pas ça que je dis. Je dis que. Et là, tu te départis d'un. Non, tu te départis d'un jeune joueur. C'est parce qu'il ne cadre pas dans ton équipe. Puis ouais. Sa valeur ne peut pas être au plafond parce que avec le genre d'équipe que tu as, un défenseur, il va rester dans ton équipe.
Si on applique ça à Philippe Dano, exactement la même rhétorique, là.
Oui, bien, dans le cas de Philippe Dano, il joue 28, 30
ouais,
minutes.
Oui, mais d'un club qui ne fait pas une série, sauf à cause de la COVID.
Oui.
J'essaie d'être équitable dans les deux cas. Avec.
Non, mais tu fais bien de le dire. Puis c'est la même. Écoute, on peut prendre la situation
n'importe
pour
qui
chacun
dans
des
club,
joueurs.
Ben oui.
Mais lorsque le match est en jeu, moi, je sais qui est sa glace, qui ne l'est pas. Je sais qui ne sera pas sa glace dans les situations critiques. Mm-hmm. Puis, je pense que Dano va être sa glace. Puis malheureusement, pour Victor Mété, il ne le sera pas. Ça n'enlève pas les qualités du jeune homme. Mais si moi, je regarde l'équipe du Canadien de Montréal avec un gardien de but comme Price, que tu essayes de protéger, tu vas avoir des défenseurs plutôt costauds. Et si tu as un défenseur de plus petite stature, comme c'est le cas de Victor Mété,
oui.
Ben, il doit assurément être un contributeur de premier plan en attaque. Parce que tu peux pas avoir ce grosseur-là et jouer défensif, là. Quand même. Là,
non, c'est sûr. Danny, juste avant d'aller plus loin, tu n'auras pas le temps de commenter bien, mais c'était juste pour appuyer, tu sais, la semaine dernière sur Taylor Hall, tu dis, j'entends des choses. Et là, j'ai posé la question à Maxime Lapierre, qui sera notre prochain intervenant, mais je vais te faire entendre juste l'extrait.
Okay.
Mario, là, je vais te l'expliquer. Taylor Hall, c'est probablement le joueur que je déteste le plus dans la Ligue nationale. Je trouve qu'il y a beaucoup de talent. Je trouve que c'est un bon patineur, c'est un bon compteur, mais je trouve pas que c'est un leader en entour duquel tu veux construire ton équipe gagnante. Moi, j'aime ça un des joueurs à la Patrice Bergeron, des gars qui jouent dans les deux sens de la patinoire, des gars qui payent le prix pour l'équipe. Talent pur, oui, Taylor Hall est incroyable, mais personnellement, c'est pas le joueur que je veux voir avec le Canadien de Montréal.
Alors, vous aurez pas, vous ostinerez pas bien, bien longtemps, Danny, Maxime ben, Lapierre et toi sur Taylor Hall?
Ils ont tellement remis en question son leadership et la façon dont il utilisait son talent. Est-ce qu'il était vraiment au service de l'équipe ou si c'est lui qui servait de l'équipe pour juste ramasser? C'est un peu ça, en fait.
Puis, mais j'ai quand même hâte de voir la suite. Si le gars il veut vraiment venir ici et tu n'es pas capable d'en attirer d'autres, tu le signes-tu pareil? Parce que dans le fond, tu veux faire un gros coup, tu sais.
Oui, peut-être tu veux faire un gros coup, mais des fois,
c'est
jusqu'à quel point, parce que, écoute, une fois qu'il va être dans ton vestiaire, là, ça va être pour longtemps, là. Tu sais, des fois,
le problème que Capitaine Shea va le mettre au pas, non? Tu veux dire, si tu fais confiance à ton leadership, t'as pas de trouble avec une acquisition de même.
Ben, ça dépend, parce que une acquisition, le gars rentre dans ton noyau dur, ça peut être une distraction, là. Je veux dire, je regarde, il y a certains joueurs au sein du Canadien de Montréal de qui on dit, c'est pas toujours, on a parlé de Max Domi plusieurs fois, c'est pas toujours, on n'est pas sûr si il est dans le même vestiaire que le capitaine. T'sais, à un moment donné, ça a des limites là aussi.
T'as bien raison, c'est une belle fin de conversation, ça, mon Danny. Alors, sur ce, je te laisse, je suis bouche bée et je te souhaite une excellente fin de soirée.
Okay, à bientôt, Danny.